chapitre 2, verset 13. Ou plutôt, nous lirons verset 12. Verset 12, chapitre 2, verset 12. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs prenant alors la parole lui dirent, « Quel miracle nous propose-t-il pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en trois jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en trois jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'ils furent ressuscités des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Amen. Voici de Cana, Jésus allant à Capernaum, Jésus allant à Capernaum et puis montant ensuite à Jérusalem. Nous avons vu Cana ici et nous avons remarqué que d'ailleurs cet emplacement n'est pas tout à fait le bon maintenant. Cana étant plus proche de Nazareth que ça. Alors, les noces ont eu lieu à Cana et puis Jésus est allé à Nazareth avec sa famille et de là il se rend à Capernaum. Vous voyez que Capernaum, dans le catholicisme, on a adopté ce nom. Mais dans nos versions protestantes, c'est Capernaum. Alors, vous voyez que cette ville, ce bourg, est situé au nord du lac de Génézareth, n'est-ce pas? Et puis alors, il y avait là une grande route romaine qui montait et qui allait à Damas. Et cette route passait ici à Capernaum et il y avait donc là beaucoup d'étrangers, il y avait là beaucoup de monde, beaucoup d'activités, beaucoup d'échanges. C'est donc là que Jésus va d'ailleurs demeurer un temps. Et puis, il va monter à la fête de Jérusalem, la fête de la Pâque. La famille de Jésus se sent intéressée à la suite des événements dont elle a été témoin à Cana. Le miracle de Cana avait causé beaucoup d'émotions. Et maintenant, la famille de Jésus serait désireuse, curieuse, je dis curieuse parce que vous savez que la conversion ne fera pas tout de suite le fait des membres de la famille de Jésus. Plus tard, oui, mais pas maintenant.
Et alors, elle serait curieuse, cette famille, de voir les autres actes de Jésus. Que va-t-il se passer après cela? Cette eau changée en vin, nous l'avons vu, ben, il y aura autre chose que cela. Que va-t-il se passer? Il est dit que Jésus descendit à Capernaum, parce que, évidemment, Cana et Nazareth se trouvent situés sur le plateau et il faut descendre pour aller au bord du lac. Les frères de Jésus, il est question ici des frères de Jésus, j'en dirai un mot en passant. Vous savez que le catholicisme a voulu que ces frères de Jésus soient des cousins, contrairement au terme d'ailleurs employé dans le grec ici, et qui signifie bien frère, qui partout est employé pour signifier des frères, c'est-à-dire des enfants de mêmes parents. Mais le catholicisme les a appelés des cousins, on en a fait peut-être aussi des demi-frères, et les frères de Jésus seraient donc ou des cousins, selon les hypothèses qui ont été émises depuis longtemps, depuis des siècles, ou des cousins, ou des demi-frères, c'est-à-dire des enfants qui seraient issus d'un précédent mariage de Joseph. Il faut dire que Joseph était notablement plus âgé que Marie. C'est pas étonnant, d'ailleurs, que, à ce moment, Joseph, il n'est plus question de lui, il est certainement décédé. Joseph était donc plus âgé, et on dit qu'il aurait eu des enfants d'un précédent mariage. Le dogme des cousins ou des demi-frères est apparu déjà au deuxième siècle. Au premier siècle, non, c'est pas du tout question, au contraire, nous avons des documents qui montrent très bien que les frères étaient des frères de Marie, des enfants de Marie, n'est-ce pas, la mère de Jésus. Mais au deuxième siècle apparaît un préjugé qui accorde au célibat une supériorité sur le mariage. On va d'ailleurs retrouver là tout un ensemble de croyances, de conceptions dont plusieurs des pères de l'Église vont se faire l'écho, auxquelles ils vont d'ailleurs fortement même adhérer. Par exemple, Saint Jean Chrysostome, au IVe siècle, Saint Jean Chrysostome, je possède tous les ouvrages de Saint Jean Chrysostome, j'ai ça dans ma bibliothèque d'ouvrages de Saint Jean Chrysostome, il y a des choses intéressantes, mais alors il y a cette naïveté, n'est-ce pas, de considérer le mariage comme quelque chose d'amoindrissant, quelque chose qui, sur le plan moral, abaisse. Et puis, il y avait aussi un autre préjugé qui accordait à Marie une sainteté hors de toute comparaison. Et pour que cette sainteté fût vraiment au niveau que l'on s'imaginait, ça, et surtout fût ce qu'on la faisait, parce que la sainteté peut être très haute, mais pas dans le mariage, aussi bien que hors du mariage, mais pour être ce qu'on la faisait, dans la pensée des premiers siècles, eh bien, il fallait que Marie, malgré qu'elle eût été mère, mais elle avait été mère ayant conçu par la puissance du Saint-Esprit, il fallait que Marie fût restée vierge, la virginité de Marie, conservée après la naissance de Jésus. Par conséquent, point question, n'est-ce pas, de voir en Joseph vraiment son mari. Joseph était son compagnon, mais non son mari réellement. La vérité historique n'est pas du tout pour cette conception-là. Pas du tout, pas du tout. On est allé chercher toutes sortes de choses. On a joué sur les noms, c'est très compliqué d'ailleurs, extrêmement compliqué, on finit par s'y perdre, mais il y a tout de même une vérité historique qui a été prise en considération, bien sûr, par certains auteurs, certains pères de l'Église même, mais ce qui fait que les frères de Jésus ne seraient pas les enfants de Marie, c'est tout simplement un préjugé dogmatique attaché à la racine du catholicisme. L'idée d'une virginité conservée par Marie se retrouve d'ailleurs dans des apocryphes, des évangiles apocryphes, tels que le propre évangile de Jacques, l'évangile de Pierre, l'évangile de Thomas, etc. Jérôme, qui pourtant fait autorité au milieu des pères de l'Église, même dans le catholicisme, Jérôme dénonce cette opinion comme absolument fausse. Mais sur ce point-là, le catholicisme qui publie encore des écrits de Jérôme voile cette partie, n'est-ce pas, de ce père de l'Église. Et cependant, Jérôme donc ne partageait pas cette opinion d'une virginité conservée. Mais historiquement, les frères de Jésus sont des enfants de Joseph et de Marie. Je rappelle rapidement que l'évangile de Luc, écrit donc par un médecin qui savait très bien la valeur des termes, dit, en parlant de Marie, « Elle enfanta son fils premier-né ». Ce qui veut dire, il y en a eu d'autres après. C'est pas tant quoi l'expression premier-né n'aurait aucun sens. Dans Matthieu, au chapitre 1er, au verset 25, il est dit que Joseph ne connut point sa femme Marie, ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils. Mais ce qui veut dire, après, n'est-ce pas, bien sûr, Joseph l'a connue dans le sens particulier de cette expression, que vous retrouvez plus d'une fois dans l'Écriture, et ce qui veut dire que Joseph eut donc des enfants avec Marie. Les frères de Jésus sont nommés, ce sont Jacques, surnommé le Juste, Joseph, Simon et Jude. Il y a même des sœurs. Et quant aux cousins, ils sont Jacques le Petit, et non pas Jacques le Juste, Jacques le Petit, Simon et Jose. Et aucun des frères du Seigneur n'était apôtre, car le même évangile de Luc, au chapitre 7, lui dit que ses frères ne croyaient pas en lui. Ce n'est que plus tard qu'ils consentiront à écouter l'évangile et se convertiront. Jacques et Jude deviendront même les auteurs des épîtres qui portent leur nom. Nous arrivons à la Pâque. Jésus monte à Jérusalem pour la Pâque. Ici commence à s'accomplir ce que le prophète Malachie, annonçant la venue du Messie, le prophète Malachie avait déclaré au chapitre 3 de son livre, verset 3, « Il s'assiera, il fondera et purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent. » Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Cela est dit du messager de l'Alliance qui entre dans son temple, retenons l'expression, nous en aurons besoin tout à l'heure, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'Alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel, des armées. C'est lui donc qui va purifier les fils de Lévi et les épurer comme on épure l'or. Nous étions donc à la veille de cette grande fête de Pâques, et déjà les parvis du temple commençaient à se remplir d'une foule agitée. Il y avait, je vous le rappelle, dans ce temple d'Hérode, quatre parvis. Ce qui était normal, mais des parvis que Hérode avait voulu situer à des plans différents. Il avait donc dû élargir le terre-plein du temple, c'est pour ça qu'il avait d'ailleurs fait construire un grand mur de soutènement pour élargir le terre-plein du temple. Et l'un de ces murs de soutènement est devenu le mur des lamentations que nous connaissons encore aujourd'hui. Un mur de soutènement, non pas un mur du temple. Et alors les parvis étaient très grands. Et ils étaient à des plans différents, à des niveaux différents. Le parvis où le temple était bâti s'appelait le parvis des sacrificateurs. Et puis, un peu en dessous, et naturellement, après une démarcation, se trouvaient deux parvis qui étaient l'un à l'est, l'autre à l'ouest, le parvis des hommes et le parvis des femmes. Et puis, alors, tout autour, entourant l'ensemble, il y avait le quatrième parvis, le parvis des païens, des prosélytes. C'est là que les prosélytes pouvaient aller, ils ne pouvaient pas dépasser ces parvis, et c'est dans ces parvis des païens qu'il y avait les portiques, cette suite de belles colonnades, colonnades toutes blanches, colonnades de marbre même, que Hérode avait voulu faire construire, et c'est là que se trouve le portique de Salomon, plusieurs fois mentionné dans l'Évangile, et où Jésus allait enseigner. On comprend qu'il ait fait élection de ce lieu pour enseigner des gens qui ne pouvaient pas dépasser ce parvis. Eh bien, dans ces parvis extérieurs, les parvis des païens, des prosélytes, là se tenaient les vendeurs. Les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et les changeurs, qui étaient assis derrière des tables, et alors qui faisaient l'échange des monnaies. Ces vendeurs et ces changeurs étaient grand nombre. C'étaient des foules qui venaient, n'est-ce pas, à la Pâque, et il y en avait, bien sûr, beaucoup de ces changeurs et de ces vendeurs. Le commerce des animaux à sacrifier et les échanges de monnaie avaient leur utilité. Hein? Les Israélites venaient de loin, de divers pays, surtout depuis la dispersion. Ils venaient d'un peu partout et il y avait beaucoup de monnaie, quantité de monnaie diverses dans l'Empire romain. Et il fallait donc unifier cela et changer la monnaie, comme on le fait toujours maintenant quand on passe une frontière. Il fallait changer les monnaies étrangères contre des monnaies du pays pour pouvoir acquérir des animaux. On aurait pu aussi apporter des animaux, mais cela était souvent très difficile, venir amener de loin des animaux, des bœufs. Ceux qui sont nommés ici sont les animaux les plus fréquemment utilisés, bœufs, brebis et pigeons. Pigeons pour les pauvres, ceux qui ne pouvaient pas acheter des animaux plus gros et d'un prix plus élevé. Eh bien, c'était donc utile cela, c'est utile. Mais le scandale, cependant, résidait en deux faits. Il y avait scandale, cependant. Il peut y avoir des choses utiles qui, cependant, constituent le scandale. Et nous qui ne sommes pas placés sous la loi, nous qui devons voir clair, avoir du discernement sur toute chose, de l'intelligence, de la sagesse, eh bien, il nous faut voir si une chose même utile est à sa place ou si, au contraire, elle ne constitue pas le scandale. À quoi le scandale était-il dû? Eh bien, il était dû premièrement à ce que les vendeurs profitaient de l'affluence de la fête de Pâques, profitaient des besoins où étaient les Israélites venant de loin pour réaliser des profits exorbitants en vendant ces animaux. D'abord, là, donc, n'est-ce pas, c'était une maison de voleurs. On volait, n'est-ce pas, les gens venant du dehors, et ça, c'était un scandale, bien sûr. Le deuxième scandale, c'était l'emplacement même.
qu'avait choisi ses vendeurs, avec bien entendu la permission des autorités du temple. Les autorités du temple étaient donc compromises également dans ce scandale. Le parvis des païens et les portiques avaient-ils été construits, étaient-ils là pour une telle destination? Sûrement non, n'est-ce pas? Ils devaient rester libres, et c'est pour instruire et pour amener au Seigneur des âmes qu'ils avaient été prévus et conçus. Et ils avaient changé, par conséquent, de destination. C'était un brouhaha, c'était un véritable marché, n'est-ce pas? C'était une profanation. Une profanation. Ainsi même, la chose utile, elle pouvait se tenir ailleurs, elle pouvait se faire dans la droiture, mais non pas de cette manière-là. Le Seigneur va faire un fouet. Il fait un fouet avec des cordes. C'est une chose extraordinaire, ça. C'est un événement vraiment, on peut dire, très en marge de tous ceux qui nous sont rapportés sur le comportement et les œuvres de Jésus. Faire un fouet de cordes. Jésus qui est humble et doux, n'est-ce pas, qui est venu pour sauver, non pour perdre, hein, qui ne peut pas faire descendre le feu du ciel sur les gens qui n'y refusent asile, n'est-ce pas? Comment se fait-il qu'en cette occasion, il fasse un fouet et use en somme, tout au moins dans le geste et dans la parole, et mais dans le geste, puisqu'il va renverser les tables des changeurs, il va prendre ça, puis hop, il va tout mettre en l'air. Pas les monnaies, brouc, tout ça va rouler par terre. Ça, et ça va être un désarroi au milieu de tout ce monde de trafiquants. Eh bien, on se demande, n'est-ce pas, comme pourquoi le Seigneur Jésus emploie cette violence, n'est-ce pas, à ce moment-là. Eh bien, il faut dire que Jésus entre dans son ministère encore maintenant. Il vient de faire un premier miracle. Nous avons vu quels signes s'inscrivent au compte de ce miracle de Cana. Et maintenant, Jésus entre dans son ministère, mais il entre par la porte du judaïsme. Il entre et il vient pour à une fête, justement une fête de Pâques. Cette fête a été instituée selon l'ordre de l'Éternel. Elle fait partie de l'économie de la loi de Moïse, c'est vrai. Mais Jésus n'y a pas encore substitué un autre signe. Elle est un signe, la Pâque. Un signe qui demeure encore. Et Jésus va venir là, dans le judaïsme, et c'est au milieu du judaïsme, à Israël, aux brebis perdues de la maison d'Israël, qu'il vient annoncer une économie nouvelle, qu'il vient apporter une alliance nouvelle, le messager de l'alliance. Mais il vient d'abord sur le plan, si vous voulez, du judaïsme. Et il, là, n'est-ce pas par ce geste, il va montrer combien le judaïsme a tout profané. Et il va apporter là un exemple, une œuvre de purification, comme nous l'avons lu dans le prophète Ésaïe. Est-ce que Jésus a fouetté les gens avec son fouet de corde, n'est-ce pas? Eh bien sûr que non. Cela ne nous est pas dit, puis nous n'avons pas à l'imaginer non plus, n'est-ce pas? Mais nous voyons le Seigneur dans un mouvement fait disant, vous avez fait de la maison de mon père une maison de voleurs. Bah, c'est une maison de prière, vous en avez fait une caverne de voleurs, n'est-ce pas? Animé par conséquent d'une sainte colère, la sainte colère de Dieu, renversant les tables, chassant les animaux qui sont effrayés. Et puis, tous ces gens, n'est-ce pas, qui se hâtent de déménager, de sortir des parvis vers l'extérieur. Eh bien, il est évident que tout cela, ce n'est pas le fouet qui le fait. Le fouet est dans la main du Seigneur, il signifie quelque chose, mais le véritable instrument de cette action, C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui agit.
Bah,
c'est le Saint-Esprit manié par une autre main, dans d'autres circonstances. Ce fouet eût été bien peu redoutable pour une foule d'hommes attachés au gain, âpres au gain, et peu satisfaits de céder à un seul homme, des hommes qui pouvaient avoir recours à la police du temple. Il y avait une police du temple. Et on va la voir d'ailleurs s'approcher, la police du temple, n'est-ce pas ? Eh bien, ce fouet aurait été, en toute autre circonstance, un instrument bien peu redoutable. Mais c'est le Saint-Esprit qui anime le Seigneur, et c'est le Saint-Esprit qui donne à son action toute sa force, qui inspire la crainte, et qui assoit l'autorité de Dieu dans ce moment. Il y a deux choses que nous avons déjà noté, que nous sommes obligés de noter encore. Vous voyez, l'Évangile nous fait revenir souvent sur les mêmes choses, et c'est tellement important. Il y a d'abord le temps de cet acte. Cet acte a un temps marqué, comme tout. C'est ça. Il y a un temps convenable, et pour nous, il y a aussi tout cela. C'est ça. Un temps marqué, un temps convenable. On ne fait pas les choses dans le désordre. On ne fait pas les choses d'une manière inconsidérée, à contre-temps. Les choses ne doivent pas être faites à contre-temps. Il nous arrive souvent d'être animés de bonnes intentions, n'est-ce pas, et d'agir à contre-temps. D'évangéliser même des fois à contre-temps, c'est-à-dire quelquefois de forcer la note, quand il faudrait au contraire laisser couler. Oh, combien nous devrions apprendre à évangéliser, mes amis. Combien nous devrions apprendre. Je me suis trouvé à Strasbourg, par exemple. Le frère Gelbach, qui est plein de zèle et de mouvement et d'entrain, nous avait loué une grande salle et j'avais fait une conférence, là. J'avais prévu ça, j'avais fait une conférence au centre de Strasbourg, dans une grande salle. Nous avions du monde. Et à l'issue de cette conférence, Rigenbach avait repris la parole après moi, et puis il avait fait une annonce de l'Évangile, n'est-ce pas, un appel plus exactement, n'est-ce pas, c'était très bien, ça c'était très bien terminé, et puis il y avait tout de même quelques contradicteurs, n'est-ce pas, dans la salle, et qui sont venus vers moi, et puis qui m'ont posé des questions. Je me suis trouvé devant un homme qui s'est présenté comme syndicaliste, et puis qui est venu contester tout, enfin, n'est-ce pas ? Mais avec calme, bien sûr. Je lui ai répondu avec calme. Quand j'ai vu, n'est-ce pas, que c'était très dur, j'ai vu à qui on avait affaire, eh bien, une pensée m'est venue tout de suite à l'esprit. Cet homme-là, tu vas pas le... Tu ne vas pas l'amener à l'Évangile sur le champ tout de suite, n'est-ce pas ? Bon, il ne faut pas, n'est-ce pas, se donner des pouvoirs, des possibilités que le Seigneur ne nous fait pas ressentir, éprouver sur le moment. Alors, je dis non, c'est l'œuvre est dure. Cependant, il est venu ici. Cependant, il est tout de même intéressé. Cependant, il pose des questions. Il pose des questions. Et il y a donc quelque chose qui travaille un petit peu, n'est-ce pas ? Alors, je parle, je réponds à cet homme, je lui donne les réponses qu'appelaient ces questions, et puis, n'est-ce pas, il en posait toujours, je n'avais pas à continuer comme ça jusqu'au lendemain. Alors, j'arrête un peu, et puis je lui dis, écoutez, bon, vous réfléchirez aux choses que nous avons, aux échanges que nous venons de faire à notre entretien, vous réfléchirez après, vous êtes un homme ouvert quand même, à tout temps, pourquoi vous n'êtes pas simplement... cet homme, n'est-ce pas, qui ne voit que ce qu'il pense, que ce qu'il a appris. Vous pouvez vous ouvrir à autre chose, c'est ce qu'il faut maintenant. Alors, je l'ai quitté sur une parole d'amitié. Je lui ai dit, écoutez, de toute manière, nous, voyez-vous, n'est-ce pas, qui prêchons l'Évangile, mais nous aimons les hommes. Aimons tous les hommes. Même vous voyez qui êtes un contradicteur. Vous qui vous présentez comme syndicaliste, n'est-ce pas, et qui même contestez jusqu'à l'existence de Dieu. Eh bien, nous ne vous en aimons pas moins. Nous vous aimons, mon cher ami. Et nous, ce que nous voulons, n'est-ce pas, c'est pas vous imposer quelque chose, mais c'est vous apporter l'amour du Seigneur. Bon, je quitte cet homme là-dessus, et je sentais bien que ça avait apaisé, n'est-ce pas, il y avait quelque chose, n'est-ce pas, là. Et je dis, un autre le retrouvera, le Seigneur est grand, n'est-ce pas, le Seigneur, il en a des serviteurs, un autre le trouvera, il faut savoir un petit peu dans l'évangélisation jouer au tennis, n'est-ce pas, et puis ça, mais c'est vrai, il ne faut pas faire la partie tout seul, enfin tout de même, il faut savoir jouer au football, jouer, pas, et puis se repasser les armes. Mais voilà qu'une sœur est arrivée. Alors, je regrette que ce soit une sœur, bien sûr, n'est-ce pas, mais voilà qu'une sœur est arrivée derrière moi, n'est-ce pas. Alors, elle avait suivi, là, un peu écouté ce que nous avions dit. Elle est venue sur cet homme, elle s'est emparée de lui, elle s'est mise à discuter, elle a vivé, elle a mis tout à vif. Quand j'ai vu ça, je suis parti, je suis allé trouver Rienbach, et puis je lui ai dit, écoutez, c'est désolant de voir ça, hein. Alors, Rigenbach m'a dit, je veux pas la retenir. C'est bien, comme ça, je veux pas la retenir. Mais c'est un désastre, mes amis, des choses comme ça. C'est un désastre. Il y a de la mesure. Il y a la mesure du Saint-Esprit. Il faut savoir parler quand il faut. Il faut savoir se taire quand il faut. Il faut savoir évangéliser dans la mesure nécessaire. Il faut que la parole... Bon, c'est pas de discuter, on vous a pas demandé de discuter. On vous a demandé d'annoncer, n'est-ce pas? D'annoncer par la puissance du Saint-Esprit. Donc, deux choses importent. Le temps convenable d'une chose, et puis l'accomplissement. Je sais bien que pour l'évangélisation, il y a toujours des temps convenables, puisqu'il est dit de parler hors de temps, dans le temps et hors de temps, n'est-ce pas? Mais il y a des choses qui doivent s'accomplir au temps marqué, au temps convenable. Et par exemple, ici, nous sommes à Périgueux, ben c'est le temps convenable d'instruire, d'enseigner, n'est-ce pas? C'est le temps convenable, ben, ce ne sera pas cet hiver. Hein? Cet hiver, vous serez à l'heure. Le résultat de cette intervention de Jésus contre les profanateurs du temple est absolument disproportionné à l'action elle-même. Regardez humainement. Regardons, n'est-ce pas, cet homme tout seul avec son fouet improvisé. Bon, ça ne peut pas être un fouet terrible, improvisé, puis qui est là, n'est-ce pas, à renverser les tables, etc. Mais il aurait été facile de le maîtriser, cet homme. Deux ou trois vendeurs, là, après lui, derrière, puis auraient dit, arrête un petit peu tout de même. Ben, c'est disproportionné. Absolument disproportionné. La foule des mercantis se disperse, elle cède la place, sans tenter de réagir, sans appeler à l'aide la police, elle cède à un homme armé d'un petit fouet. Qu'est-ce que ça veut dire, là, mes chers amis? Eh bien, ça veut dire une chose, si tout est chassé, bousculé, emporté précipitamment comme par un vent, c'est le souffle de l'esprit qui fait ça. Et retenons cette leçon, c'est que si nous faisons quelque chose dans le temps, si nous faisons à propos les choses que Dieu nous demande, si nous les faisons comme un accomplissement, chers amis, je dis un accomplissement pour Jésus, c'est très net, n'est-ce pas? C'est très net, les disciples vont le remarquer d'ailleurs, n'est-ce pas? Il y a un verset du psaume 69 qui va leur revenir à l'esprit, le zèle de ta maison se déborde. Le zèle de ta maison. Voilà l'accomplissement de cette parole, n'est-ce pas? Eh bien, chers amis, pour Jésus, donc, c'est très net, bien sûr, mais pour vous, ça ne l'est pas moins. Puisque, nous le rappelons souvent, il est préparé, il est écrit dans l'Épître aux Éphésiens, nous avons été créés pour de bonnes œuvres. De bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les accomplissions. Et je vous ai dit que le sens littéral, c'était afin que nous marchions au milieu de ces œuvres, dedans. Il y a donc, ce que nous avons à faire, c'est un accomplissement. Et si vous regardez les choses avec foi, comme cela, Vous verrez que tout changera. Et vous verrez que vous aurez de la force. Vous verrez quel genre de témoin vous allez devenir. N'est-ce pas? Sachant que les autres sont préparés d'avant. Je vous ai déjà dit que le matin, on devrait, dans la prière du matin, faire place à cette question, à cette demande adressée au Seigneur. Seigneur, mais révèle-moi les autres que j'ai à faire aujourd'hui. Il y a des autres préparés d'avant. Je voudrais bien qu'il y en ait aujourd'hui. Quelles sont ces heures? Que vais-je faire? Et je vous rappelle aussi que par œuvre, attention, il y a la conduite. Enfin, le Seigneur a surtout signalé la conduite du chrétien. Mais il y a la conduite qui parle, il y a aussi nécessité de parler, quelquefois, n'est-ce pas? Il y a certaines choses à faire. Eh bien, tout cela, ce sont des œuvres préparées d'avance. Un accomplissement. Donc, le temps marqué est un accomplissement. Si ça n'est pas un accomplissement, et c'est une œuvre, alors, voulue, imaginée par l'homme, ça devient une œuvre de la chair. Quand on agit donc au moment de Dieu, sur l'ordre de Dieu, il y a une force surnaturelle, il y a une autorité indomptable qui se manifeste et qui ne sont pas rationnelles. C'est pas rationnel, ça ne s'explique pas. C'est contraire, en somme, au déroulement qu'auraient dû avoir les choses pas, s'il n'y avait pas eu cela. C'est tout à fait hors de proportion. C'est quelque chose, donc, n'est-ce pas, qui tient d'une force surnaturelle, d'une autorité indomptable. C'est avec ça qu'il faut travailler, mes amis, c'est avec cette force-là. L'action du disciple de Christ n'est pas une action naturelle, mais surnaturelle. Alors, à ce moment, au moment où Jésus chasse tous ses vendeurs et ses changeurs, le péché, la mauvaise conscience de ces gens sont ressentis partout. Il y a une accusation dans le geste de Jésus. Leur conscience, leur mauvaise conscience, ça, est là, et ils la ressentent. Et le Saint-Esprit a mis en eux, par conséquent, n'est-ce pas, un esprit de déroute, parce qu'ils se sentent coupables. N'est-ce pas là la manifestation de ce que sera le jugement, lorsque le Fils de Dieu, devra fouler la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu. Il n'y aura pas un fouet à ce moment-là, lorsqu'il viendra fouler la cuve de l'ardente colère du vin de l'ardente colère de Dieu. À cette action de Jésus correspond deux résultats absolument opposés. Premièrement, c'est parmi les chefs les juifs, c'est-à-dire les chefs du temple, cette police, si vous voulez. Eh bien, c'est d'abord une réaction de mécontentement et de contestation. C'est cette police qui n'a pas pu réagir, s'informe après coup de savoir de quel droit le Seigneur Jésus venait ici changer le cours habituel des choses et se faisait juge et redresseur de tort. Quel droit as-tu pour cela? D'autant plus que ces pratiques avaient reçu la sanction des autorités du temple. L'action de Jésus avait apporté comme un retour à celle des prophètes autrefois. Et ces hommes-là étaient capables de se souvenir de cela. Ils connaissaient fort bien les Écritures. Abraham, se faisant contre une dizaine de rois, se faisant l'ardent défenseur de Lot et remportant une victoire éclatante sur ses rois, le roi de Sodome, résistant au roi de Sodome. Et puis Moïse, zélé pour son peuple. Nous avons vu que l'histoire de l'Égyptien n'était pas le moment de Dieu, n'est-ce pas, ni la chose de Dieu. Alors là, ça tourne assez mal. Mais ensuite, n'est-ce pas, ne reviendra-t-il pas comme celui que Dieu envoie et ne va-t-il pas faire preuve d'un zèle inouï, d'un zèle extrême extraordinaire dans la délivrance du peuple d'Israël. Et puis, c'est le rappel aussi d'Élie détruisant et confondant les prophètes de Baal. C'est aussi le souvenir de David, son parent dès qu'il est roi, de Jébus, cette ville que Dieu a choisie, ce lieu qu'il a choisi pour son peuple. Et puis Néhémie, bravant les ennemis de la reconstruction des murailles. Les ennemis qui constamment le sollicitent, le harcèlent, le menacent, le calomnient, l'accusent. Il reste là, ferme. Il va faire son travail, un travail inouï, un travail incompréhensible. Il faut que les gens aient l'épée d'une main et puis la truelle de l'autre. Eh bien, tout cela pouvait revenir au souvenir, à l'esprit de ces Juifs. Et alors, c'est pourquoi ils vont dire, « Mais toi, quel signe nous montres-tu pour justifier l'autorité dont tu t'empares ici ? Quel est ton signe ? As-tu un signe comme un prophète ? Les prophètes, ils avaient des signes. Mais toi, qu'as-tu comme signe ? Demandez un signe. Demandez un signe. Mais n'avait-il pas réalisé ce qui s'était produit ? N'avait-il pas vu ? La confiance israélite n'était-elle pas gravement en faute? Il ne pouvait pas manquer de le réaliser, n'est-ce pas? Nous n'aurions pas dû, bien sûr, admettre tout ce peuple de mercantiles sur les parvis du temple. Nous sommes nous-mêmes si chauvins quand il s'agit, n'est-ce pas, des autres parvis, et nous avons laissé souiller ce parvis. La conscience israélite, donc, était en faute, il le savait bien, n'était-ce pas évident? La profanation n'avait-elle pas été comme n'avait-elle pas été comme montrée par le geste de Jésus? Et, en somme, l'action purificatrice du Seigneur ne s'imposait-elle pas comme juste, vraiment juste, au cœur de ces hommes? Alors pourquoi demandait-il un signe? Si la chose était juste, et ils le savaient bien dans le fond de leur cœur, pourquoi demandait-il un signe? Oh, chers amis, tirons encore là une leçon. Vous savez que j'aimons bien tirer de toute occasion une leçon pour nous. Prenons bien garde à cela. Lorsque le Seigneur reprend, nous reprend, c'est bien qu'il vous reprend. Hein, c'est ses enfants qu'il reprend. C'est le juste qu'il éprouve. C'est le juste qu'il reprend. C'est pas le païen. Le païen, il l'appelle. Mais le juste, il le reprend. Lorsqu'il reprend, lorsqu'il châtie, lorsqu'il redresse, alors allons-nous nous aussi dire, « Seigneur, donne-moi un signe pour voir si je dois faire ceci, je dois faire cela. » Et le Seigneur ne donne pas des signes. Tant que nous ne sommes pas, on va trouver la bonne assise. Le Seigneur n'a pas de signe à nous donner. Là, on peut demander des signes à tout bout de champ. Mais ça, il faut savoir, il faut être instruit, il faut écouter sa conscience, et puis dire, mais si telle chose arrive, et si le Seigneur me reprend, me châtie, ben, je vais mériter, et je vais mériter de telle et telle manière. Et le Seigneur, que nous demande-t-il? Une chose. Pas qu'on lui fasse la demande d'un signe, il nous demande ceci, repends-toi. Apocalypse 3:19. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. C'est cela que je reprends. Ça pour leur bien. Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc, du zèle et repends-toi. Voilà, vous avez cette parole du Seigneur, mais pas besoin d'une autre, n'est-ce pas? Les signes peuvent être demandés dans d'autres occasions, mais pas quand il s'agit de revenir à l'obéissance, alors qu'on s'en est écarté. Demander un signe de la part de ces hommes, c'est vouloir éluder la réprobation de Dieu. Ils n'acceptent pas la voix de leur conscience. Ils n'acceptent pas l'humiliation du moment. Vous, chefs des Juifs, vous avez toléré cette profanation. Vous, pourtant vous êtes si durs, Vous êtes si à cheval sur tant de choses. Vous avez toléré ça. Leur confiance leur disait. On disait, mais c'est nous qui l'avons fait. Mais nous avons eu tort. Oui, bien sûr, on a toléré ça. Eh bien, ils veulent éluder la réprobation de Dieu. Par conséquent, ils veulent éluder le repentir. Celui qui élude la voix de Dieu, la voix de la conscience, celui qui élude la réprobation, je reprends et je châtie ceux que j'ai. Celui qui élude cela, élude du même coup le repentir. Et il élude cela, chers amis, n'est-ce pas, parce que il ne s'humilie pas. Il faut savoir s'humilier. Un signe, il demandait un signe. Pourquoi faire? Pour discuter, pour parler. Mais Dieu n'engage pas le dialogue dans de telles conditions. Dieu engage le dialogue avec qui? Avec ses saints. Avec des saints. La réponse de Jésus, détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. Détruisez ce temple. Oh, chers amis, c'est là une prophétie. C'est une prophétie du Seigneur. C'est une prophétie. Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. Il est évident qu'elle est un peu énigmatique. Elle est voilée comme les prophéties d'autrefois. Elles sont voilées. Et pour la comprendre, eh bien, pour qu'elle devienne perceptible, il faut de la foi et il faut l'Esprit du Seigneur. Sans l'Esprit du Seigneur, tu vas comprendre. Mais le Seigneur va persister dans ce moyen, même quant à l'enseignement. Il va dire, je leur parle en parabole à ceux-là qui ont le cœur dur, le cœur endurci, le cœur fermé, ils ont des oreilles pour ne pas entendre et des yeux pour ne pas voir, eh bien, je leur parle en parabole, afin qu'en entendant, eh bien, ils ne comprennent pas. Et vous, eh bien, je vous parle, à vous, c'est à vous, mes disciples, que je parle, c'est à vous que je donne l'enseignement que vous pouvez percevoir, recevoir. C'est donc une prophétie. Détruisez ce temps, ce qui signifiait ceci. Avec l'impiété et la révolte qui se voit en vous, que ferez-vous avec ça? Vous irez jusqu'à détruire ce temple. Là, votre péché vous conduira. Là, pas ailleurs. Il va vous conduire là. Je vois votre cœur. Et c'est à l'heure. Vous savez que, naturellement, au cours du ministère de Jésus, le complot va toujours davantage se resserrer, n'est-ce pas? Et que, on va méditer sa mort, on va attendre d'une façon fébrile le moment où l'on pourra se saisir de lui pour le mettre à mort. Mais il y a longtemps qu'on a convoité cela. Ça, c'est là que votre péché vous conduira, avec cette impiété, cette révolte qui sont en vous. Et quand on a fait alliance avec la puissance des ténèbres, eh bien on aboutit à cela. On ne peut pas aboutir ailleurs, on ne peut pas déboucher sur autre chose. Si on a fait alliance avec les ténèbres, voyez notre monde tout entier, il débouche. Sur quoi aujourd'hui? Le rejet de Dieu, sur même le blasphème. Jamais le blasphème n'est assez fort, n'est assez grossier dans notre monde actuel. La théologie, n'est-ce pas, du Dieu mort, qu'on introduit en France maintenant, qui est depuis plusieurs années en Amérique, la théologie du Dieu mort, et puis toutes les abominations qu'on peut faire et dire, n'est-ce pas, que ce soit dans les milieux marxistes, que ce soit dans les milieux de cette théologie abominable d'aujourd'hui, cette théologie intellectuelle, eh bien, on ne peut pas aboutir à autre chose. La terre aboutit à ça, son péché, sa révolte, la conduisent nécessairement à quoi? À détruire le temple de Dieu, la présence de Dieu sur la terre. Et il faudra que l'esprit se retire de la terre. L'esprit va se retirer. Il n'y aura plus de place à détruire la présence de Dieu sur la terre, à détruire la vérité, à détruire l'œuvre de Dieu. Le temple de Jérusalem n'était-il pas la figure de la personne même du Sauveur, Dieu au milieu de son peuple, Immanuel, Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu avec nous. Il était là, il parlait du temple de son corps. Mais il y a une équivoque avec le temple de Jérusalem qui est là. Mais le temple de Jérusalem, pourquoi est-il là? Pour annoncer que l'Emmanuel va venir au milieu de son peuple. Alors détruisez ce temple. Le temple de Jérusalem lui-même ne pourra pas résister. Il sera détruit lui aussi. Il faudra qu'il soit détruit. L'homme, en demeurant sous l'empire de la loi du péché, ne peut que détruire. Il faut savoir que le péché a une puissance destructrice qui est à l'œuvre et qui chemine et qui va tout droit vers son aboutissement, comme je viens de vous le dire, n'est-ce pas, qui est le rejet de Dieu, qui est le blasphème, qui est la destruction de la présence de Dieu, de toutes les œuvres de Dieu. L'homme, donc, sous l'empire de la loi de péché, ne peut que détruire. Il détruit le temple. Donc, il détruit la vie. Et toute espérance. Il se ferme à toute espérance. Le sanctuaire de Jérusalem était donc l'image de ce temple annoncé par Malachie et qui était là. Le messager de l'Alliance entrera dans son temple, dans un corps d'homme, dans une sphère semblable à celle du péché. Ici, il y a encore une précieuse leçon pour les chrétiens. Chers amis, sachez ceci, c'est que si nous n'avons pas constamment la victoire, si nous ne recherchons pas constamment la victoire, si nous cédons au mal, si nous nous laissons tant soit peu entraîner par le mal, même si nous ne sommes pas encore de ceux que Dieu réprouve, n'est-ce pas, je ne vais pas jusque-là, mais si nous nous laissons entraîner par le mal, par faiblesse, par défaut de réaction, n'est-ce pas, eh bien, qu'allons-nous faire? Nous allons détruire le temple, chers amis, et je vais vous le montrer. Détruire le temple, le nôtre, et puis détruire aussi, d'une manière plus large, le temple du Seigneur. 1 Corinthiens 3, et verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou. Afin de devenir sage. Oh, chers amis, mais ce sont des paroles ardentes, mais des paroles nécessaires. Si nous laissons le mal détruire notre vie chrétienne, détruire notre témoignage, détruire notre ardeur, notre force, si nous laissons le mal travailler dans nos membres et reprendre possession de nos membres pour que, devenus des membres d'iniquité, ils redeviennent encore des membres d'iniquité. Eh bien, chers amis, nous détruisons le temple de Dieu. Et la prophétie de Jésus nous atteint. Détruisez ce temple. C'est ça, c'est-à-dire, attention, homme, c'est ça que vous pouvez faire avec le mal. Vous ne pouvez pas faire autre chose que cela. Mais en 3 jours, je le relèverai. Il y a de la prophétie, avons-nous dit, n'est-ce pas? En 3 jours, je le relèverai. La puissance du péché se donnant libre carrière détruira le temple que Dieu vous envoie au milieu de vous, pour vous précisément. C'est pour vous que ce temple est venu. C'est pour vous. Mais cette puissance du péché fera son œuvre. Elle sera une œuvre qui le trompe, qui la trompe. Satan fait une œuvre qui le trompe. Il est obligé d'aller jusqu'au bout. Satan ne peut pas s'arrêter. J'ai souvent fait l'étude du mal dans les Écritures. Réfléchis à cela, à la carrière du mal, à ce cheminement du mal, à cette course, on peut dire, que le mal prend, à cette amplification qui le caractérise. Eh bien, on aboutit nécessairement au pire. Au pire, on ne peut pas aboutir ailleurs qu'à cela. On aboutit au pire. Il n'y a rien qui arrête la puissance du mal. Elle va jusqu'à la destruction complète. Mais elle fait une œuvre qui la trompe. Le règne de Dieu va devoir comme sombrer dans la mort. Mais ce sera là sa victoire. Et le temple que vous aurez détruit, chair que vous aurez détruite, eh bien ce temple ressurgira. Il ressurgira par un miracle. Il ressurgira par la puissance de Dieu. C'est la puissance des ténèbres qu'il aura détruit, mais la puissance de Dieu va reconstruire. Et il faut que cette puissance de Dieu s'exerce dans le sens inverse. Vous, vous faites tomber dans la mort. Mais c'est dans la mort que la puissance de Dieu vient, et c'est de la mort qu'elle arrache et qu'elle fait ressurgir pour l'éternité. Le Seigneur qui est le premier-né d'entre beaucoup de frères, le premier-né d'entre nous, n'est-ce pas, d'entre beaucoup de frères, celui qui nous donne la force pour l'éternité, la force pour entrer dans le royaume de Dieu. Et puis, dans les versets 23, 24 et 25, qui terminent ce chapitre 2, nous voyons que le Seigneur Jésus, à Jérusalem, à la fête de Pâques, va faire des miracles. Il va faire des miracles. Il va donc apporter des signes qui sont propres à son ministère, au ministère qui est le sien, et qui vont devenir propres au ministère de l'Église. Il fait ces signes. Le voilà entré dans le ministère de l'Église, le vrai ministère de l'Église. Le temps des prophètes est révolu. Le Seigneur Jésus ne va pas continuer à faire un souhait et continuer à châtier tout ce qui doit l'être, n'est-ce pas? Il y aurait bien des choses. Mais on peut dire que tout de même, dans le temps de l'Église qui est celui de la grâce, le temps de la grâce de Dieu, le temps de la foi, nous marchons par la foi et non par la vue, le temps de la patience de Dieu, le soleil se lève pour les méchants comme pour les bons, parce que c'est le temps des semailles. Et ce sont des méchants qu'il faut ensemencer de la parole de Dieu. Ça, c'est le temps de l'Église. Et pour l'Église, les armes sont exclusivement spirituelles et jamais charnelles. Mais malgré tout, notons-le, dans le temps de l'Église, quelquefois, un coup particulier devra être porté à l'impiété. La colère de Dieu, quelquefois, fera une brusque apparition. Et je veux penser notamment à l'affaire d'Ananias et Saphira. Voyez-vous, n'est-ce pas? La colère de Dieu va quelquefois se manifester. Et il y a plusieurs exemples de ça dans les siècles de christianisme. Il y a plusieurs exemples. Et de toute manière, l'apôtre Paul nous montre que à l'intérieur de l'Église, ce n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de l'Église. À l'extérieur, n'est-ce pas, c'est l'amour de Dieu qu'il faut prêcher, c'est la miséricorde de Dieu qu'il faut mettre à l'œuvre pour le pécheur, en faveur du pécheur. Mais dans l'intérieur de l'Église, chapitre 5 de 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 12 et 13, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Ça c'est la profanation dans l'Église, voyez. Le Seigneur ne la tolère pas. Il faut juger, il faut voir, il faut examiner. Et au milieu de l'Église, il faut ôter le méchant, même si plus tard, ce méchant qu'on a livré à Satan, qu'on a laissé à sa folie, c'est ça. Eh bien, ce pécheur, s'il revient, eh bien, on lui ouvrira à nouveau les portes de l'Église. Nous voyons, n'est-ce pas, l'apôtre Paul donner cet autre conseil dans la seconde épître aux Corinthiens. Ah, cette fois-ci, eh bien, il faut l'accueillir, il est sorti de son péché. Il a été châtié pour son péché, il a été... Mais lui-même, n'est-ce pas, repris par Dieu, il a senti, il a goûté l'amertume du péché. Il revient maintenant avec d'autres dispositions dans le cœur. Dieu ne l'a pas rejeté. Et reprenez-le parmi vous. Heureusement que Dieu ne nous rejette pas, chers amis. Heureusement, il y a pas mal de frères, de sœurs qui quelquefois me disent, « Ah, oh, vous savez, j'ai commis des péchés depuis que je suis converti. Alors, est-ce que Dieu m'a rejeté ? La plupart du temps, on parle toujours presque. On peut les rassurer, leur dire non, mais non. Seulement, il faut que vous soyez venu vers le Seigneur avec un cœur brisé. Si vous êtes venu avec ce cœur brisé, et si vous avez délibérément trouvé, même dans l'occasion de ce péché, si vous avez trouvé la force maintenant de réagir contre le péché, eh bien, que Dieu vous ait pardonné, rentrez dans les rangs du troupeau du Seigneur, revenez au milieu des brebis du Seigneur. C'est pareil, vous voyez que Dieu désire qu'au sein de l'Église, il y ait de la sainteté. Et puis, il nous est dit tout à fait à la fin que Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Étant sur la terre, nous voyons que Jésus ne pouvait exercer l'omniscience et lire, bien que, on pourrait dire, enfermé dans ce temple de chair, bien que sa gloire fût voilée par la chair, une chair semblable à celle du péché, malgré cela, voyez-vous, les attributs de la divinité étaient quand même là, présents, et le Seigneur pouvait lire au fond de l'homme, au fond des cœurs, à combien plus forte raison aujourd'hui, glorifié qu'il est auprès du Père, peut-il lire dans nos cœurs et nos consciences, amis, et nous devrions pouvoir lui dire comme le salut, Seigneur, sonde-moi, sonde mon cœur, j'en ai besoin, je le désire, et c'est là, pour moi, l'occasion de marcher, l'occasion d'être affranchi. Seigneur, sonde mon cœur. Amen.